Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui Grégory Pless pour vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Au programme, on va parler du Brexit dans notre dernier épisode d'Europa Voice. On reviendra également sur l'actualité économique de la semaine en Australie. On ira aussi voir ce qui se passe ce mois-ci à l'Alliance française d'Adélaïde. Et puis comme d'habitude, on fera aussi le point sur les derniers événements sportifs avec Jean-Noël Ducasse. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal, on y va. Les principales actualités de ce jeudi 15 octobre 2020. En France, Emmanuel Macron annonce un couvre-feu à partir de samedi en région parisienne et dans 8 autres métropoles. Nouvelle journée de protestation en Thaïlande où la jeunesse réclame une réforme de la constitution et le départ du Premier ministre. La Thaïlande où actuellement l'armée possède de très larges prérogatives. Et puis en Australie, journée décisive pour Gladys Berejiklian, après avoir reconnu qu'elle avait eu une relation intime avec un ancien député soupçonné de corruption. Il n'est pas exclu que la première ministre de Nouvelle-Galles du Sud remette aujourd'hui sa démission. L'Île-de-France et huit autres métropoles françaises vont donc être placées sous couvre-feu à partir de ce samedi et pour une durée d'au moins 4 semaines, alors qu'en France, le coronavirus regagne beaucoup de terrain, plus de 100 morts, près de 200 admissions en réanimation et plus de 20 000 nouveaux cas ont été recensés au cours des 24 dernières heures. C'est le président Emmanuel Macron qui a annoncé la mise en place de ce couvre-feu hier soir à la télévision. Il a en revanche, pour l'instant, écarté l'idée d'un reconfinement, mais aussi précisé qu'il n'y aurait pas non plus de restrictions sur les déplacements, ce qui signifie que les Français pourront malgré tout partir en vacances à la Toussaint. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention sur TF1 et France 2.
Nous n'avons pas décidé de réduire les déplacements entre les régions. Là aussi, c'est un choix, parce que je pense que, comme vous l'avez dit, c'est le choix de ne pas infantiliser, mais de responsabiliser. Alors, et donc, ça veut dire qu'on n'empêche pas les gens de passer d'une région à l'autre, d'ailleurs concrètement, de partir en vacances. Mais on va leur demander de respecter des règles de citoyenneté pendant les semaines et les mois qui viennent. On sait que quand on est dans des espaces qui sont ouverts, on peut prendre l'air. On sait que quand on est justement dans des lieux où on peut sortir, on lutte plus efficacement contre le virus. Donc, demander aux gens de rester chez eux dans un appartement et de ne pas aller dans un lieu de vacances, honnêtement, ce serait disproportionné et parfois contre-intuitif.
Et ce couvre-feu, il va bien sûr avoir des conséquences sur l'économie. Emmanuel Macron a donc également annoncé une série de mesures de soutien aux secteurs qui vont être les plus directement concernés par ces mesures. Décryptage avec Pauline Glaise de RFI.
Les restaurants, les théâtres, les cinémas. Emmanuel Macron suggère de reprogrammer les sorties pour aller plus tôt au théâtre ou au restaurant, justement. Mais en semaine, les clients pourraient avoir du mal à le faire coïncider avec leur agenda, car il faut aussi prévoir le trajet du retour qui est parfois long en ville. Pour aider les établissements qui décideront de fermer, le chômage partiel tel qu'il était au début de la crise sera réactivé pour les secteurs donc de l'événementiel, de la culture, de la restauration ou du sport. L'État prendra en charge 84% du net des salariés et ce jusqu'à 4 SMIC et demi. Dès la semaine dernière, le gouvernement avait d'ailleurs annoncé une telle mesure pour les secteurs déjà touchés par des restrictions administratives. Confirmation également le début des remboursements des prêts garantis par l'État sera décalé d'un an avec un échelonnement sur 5 ans. Et en vue d'éventuels dispositifs de soutien supplémentaires, des concertations locales seront organisées dès ce vendredi.
Et le coronavirus, il est également de nouveau très virulent en Grande-Bretagne. Le gouvernement vient d'ailleurs d'introduire une série de restrictions localisées. C'est par exemple actuellement dans la ville de Liverpool qu'elles sont les plus sévères, avec notamment la fermeture des bars et des salles de sport, et ainsi que d'autres types de commerces. En revanche, pour l'instant, Boris Johnson reste opposé à un reconfinement pour une durée de 2 semaines qui avait pourtant été réclamé par certains. C'est par exemple le cas du leader de l'opposition, Keir Starmer. Voici ce que lui a répondu Boris Johnson.
The whole point, Mr. Speaker, is to seize this moment now to avoid the misery of another national lockdown into which he wants to go headlong by delivering a regional solution.
Et une nouvelle journée de mobilisation hier à Bangkok, où depuis le mois de juillet, la jeunesse thaïlandaise réclame le départ du Premier ministre ainsi qu'une réforme de la Constitution qui, en l'état actuel, accorde de très larges prérogatives à l'armée et aux militaires. À Bangkok, la correspondance de Carole Izou pour RFI.
La tension est montée d'un cran aujourd'hui puisque les manifestants se sont retrouvés face à des centaines d'hommes en jaune, couleur de la monarchie. Beaucoup étaient des policiers en civil, facilement reconnaissables à leur coupe de cheveux, caractéristiques, rasés sur les côtés. Mais certains étaient aussi des habitants de la capitale venus témoigner leur soutien au gouvernement et surtout au roi de Thaïlande, comme Khun Somchai, un commerçant de Bangkok.
Nous sommes venus en famille pour défendre la monarchie, pour dire aux étudiants qui se rassemblent aujourd'hui, qui peut-être ne comprennent pas à cause de leur jeune âge, que la monarchie c'est la base de notre identité thaïlandaise. Et pour nous, les Thaïlandais, les propos qu'ils tiennent sur leur roi, ce n'est pas acceptable.
Des insultes ont fusé, des coups même ont été échangés entre les deux groupes, notamment au moment où sont passés des camions qui transportaient des manifestants grimés en souverains thaïlandais du passé. L'actuel souverain a traversé le site des manifestations en voiture, avec la reine au milieu des manifestants, dont beaucoup l'ont accueilli d'un salut à 3 doigts levés, le signe de ralliement de ces manifestations. Une première dans un pays où le proche personnel du roi doit se prostrer à son approche. Les manifestants, qui pour éviter les violences ont dû se rediriger vers un autre quartier de la ville où ils se sont installés pour la nuit, restent fermes dans leurs revendications. Départ du gouvernement, nouvelle constitution qui offrirait moins de pouvoir à l'armée et réforme de la monarchie. Carole Izou, Bangkok, RFI.
Un camouflet pour l'Arabie Saoudite qui ne siégera pas au Conseil des droits de l'homme, cette institution onusienne qui est régulièrement critiquée pour compter parmi ses membres des pays au bilan désastreux en matière de droits humains, renouvelé cette semaine 15 sièges sur 47. La Chine ou bien encore Cuba en sont membres, mais pas l'Arabie Saoudite qui n'est pas parvenue à obtenir suffisamment de votes. Les explications de Nicolas Falaise pour RFI.
L'Arabie Saoudite a déjà été membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies dans le passé, mais elle échoue cette année en ne recueillant que 90 votes à bulletin secret parmi les 193 pays membres de l'ONU, là où par exemple la Chine a recueilli 139 voix, ce qui lui permet d'être élue. Plusieurs organisations de défense des droits humains se félicitent de ce message fort adressé à l'Arabie Saoudite, pays très critiqué pour les conséquences de son intervention militaire au Yémen, mais aussi pour la répression des opposants, à commencer par le journaliste dissident Jamal Khashoggi, assassiné il y a 2 ans derrière les murs du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Des militantes féministes saoudiennes sont par ailleurs toujours derrière les barreaux. Le revers est sévère pour le royaume qui ne ménage pas ses efforts pour promouvoir ses réformes et tenter d'améliorer son image. Ce sera encore le cas le mois prochain lorsque l'Arabie Saoudite accueillera un sommet virtuel des pays du G20 dont elle occupe la présidence cette année.
À New York, un hommage a été rendu hier soir à l'occasion de ce qui aurait été le 47e anniversaire de George Floyd. George Floyd, c'est cet Afro-Américain qui est mort le 25 mai 2020 lors d'une intervention policière particulièrement musclée et entièrement filmée. Un incident qui a déclenché une vague de manifestations dans tout le pays dénonçant les violences policières, en particulier à l'égard des Noirs. Parmi les personnes présentes hier soir à New York, plusieurs membres de la famille de George Floyd et notamment son frère Terrence, qui sans surprise reste très affecté par le décès de son frère.
A lot of people ask me, you know, how you doing? Are you okay? And everything. I tell them, I'm maintaining, but I'm not okay.
That's right. That's right.
And the reason why I'm not okay is because my people not okay.
That's right. Preach.
I'll be okay when something called accountability
That's right.
will happen.
Et la journée va être très longue pour la première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, alors que l'ancien député Daryl Maguire, avec qui elle a eu par le passé une relation intime qui a duré près de 5 ans, doit témoigner de nouveau aujourd'hui devant la commission anticorruption. Alors au-delà d'une erreur sur le plan personnel, Gladys Berejiklian dément toute forme de malversation. Pourtant, son ex-compagnon, donc Daniel Maguire, assure pour sa part avoir assuré en 2017 une rencontre entre elle et un promoteur immobilier, Joseph Alla, à Sydney, au Parlement de Nouvelle-Galles du Sud. Je vous propose d'écouter un extrait de cette audition.
The possibility that you would be able to introduce him or allow him to see the Premier by way of a drop-in.
Yes.
Right?
Yes.
You, Mr. Alla, didn't want to see the Premier just to meet her. He wanted to discuss his planning issue with her that was so frustrating.
His emails and texts said, correct.
And that was the whole purpose of him coming to Parliament House on the 15th of November with his models.
Et le coronavirus, 6 nouveaux cas aujourd'hui dans le Victoria, en revanche aucun décès, et 11 nouveaux cas en Nouvelle-Galles du Sud, parmi lesquels 6 sont des cas de transmission communautaire. À ce sujet, le ministre de la Santé de l'État, Brad Hazard, a appelé ceux qui ont été testés positifs à être honnêtes vis-à-vis des autorités à propos de leurs déplacements, et ce, afin de faciliter le travail des autorités pour retrouver d'éventuels cas contacts.
We are not interested in any of your personal activities. We are not interested in other legal issues that you might have been involved in. We just need you, public health needs you to tell us the whole truth and nothing but the truth.
Et on termine comme toujours ce bulletin avec la météo de ce jeudi en Australie. 27 degrés et du soleil à Sydney, 25 degrés à Melbourne où on attend quelques averses dans la journée. Des nuages à Perth où il fait 24 degrés, 27 degrés à Adelaide, du vent et de la pluie à Hobart où il fait 19 degrés, 27 degrés à Brisbane, grand soleil et 31 degrés à Cairns, 32 degrés à Darwin où le temps est aujourd'hui à l'orage.
Tapis. Arrêtez de faire chier Bernard Tapie. Oh, tu crames les mêmes pas de danse comme Shaki. Oh, j'ai plus quel effet, ça fait que t'es trois fois platine. Ouh, yeah, j'te taquine. J'suis le pont entre Young Thug et George Moustaki. Le noir le plus aimé du central massif. J'comprends toujours pas pourquoi autant de blancs me kiffent. Bernard Minet.
Et c'était Aurel San en duo avec Maître Gims sur ce morceau qui s'appelle Christophe. Vous êtes sur SBS, le programme en français, et c'est maintenant l'heure du magazine des sports. Jean-Noël Ducasse va nous parler, entre autres, des dernières rencontres de la Ligue des Nations, avec en particulier une victoire hier soir de la France face à la Croatie, et puis aussi du Giro, le Tour cycliste d'Italie.
Journal des sports de ce jeudi, tout d'abord le cyclisme, le Giro d'Italie avec la 11e étape hier remportée par Arnaud Démare, le français. On l'écoute sur European Broadcasting Union.
Impressionnant, voilà, les jeunes ont fait un gros boulot pour revenir sur l'échappée, ils sont dans l'armée, ils devaient vraiment appuyer fort et puis après, voilà les gars, on était un peu débordés à l'entrée du village et puis à l'entrée de la ville et puis après... On montait petit à petit, virage après virage, c'était vraiment chaud. La ligne droite avant l'arrivée, voilà, il y a Kono, il a fait un travail exceptionnel. Il a remonté très fort, Maïs qui prend le manche derrière. Il y a Copo qui attend vraiment les 400 mètres idéal. Et là, j'attends, je laisse un petit peu. Et quand je démarre, j'ai la grosse force et j'avais peur que ça remonte, mais ça a été jusqu'à la ligne nickel.
On passe au footy en Australie, l'AFL, les matchs de qualification des finales préliminaires pour aller en grande finale. Demain, vendredi, Port Adelaide jouera contre Richmond au Adelaide Oval. Et samedi, Brisbane jouera contre Geelong au Gabba, c'est au Queensland. On passe au foot, le ballon rond, la Ligue des Nations, la France qui bat la Croatie 2-1. Jérôme Bastion et Antoine Grenier pour RFI.
Deuxième confrontation en un mois entre France et Croatie, les derniers finalistes de la Coupe du Monde. Au match aller en septembre, la France l'avait emporté à Saint-Denis sur le score de 4-2. C'était d'ailleurs ce même score sur lequel, en 2018, les Bleus l'avaient emporté sur les Rouges et Blancs à Moscou. Alors cette fois, Antoine Grenier est notre envoyé spécial à Zagreb dans le stade Maximir. Le match est terminé, Antoine, et dites-nous si l'histoire a bégayé ou pas.
Elle a bégayé, Jérôme, mais pas exactement dans les mêmes proportions. D'ailleurs, ils vont peut-être commencer à en avoir assez, les Croates, de perdre face à une équipe de France qui n'est finalement pas si brillante que ça. Les Bleus s'imposent ce soir 2-1 sur un premier but d'Antoine Griezmann dès la 8e minute, centre de Ferland Mendy, contré. Le ballon revient sur l'attaquant du Barça dont la frappe puissante bat le gardien croate. Les Bleus ont ensuite tenté de gérer. L'arbitre a peut-être oublié un petit pénalty pour les Croates en première période. Les Croates galvanisés au retour des vestiaires et qui ont égalisé à la 65e minute par Vlasic avant que Kylian Mbappé offre la victoire aux Français. Long ballon de Paul Pogba, une petite merveille vers Lucas Digne qui remet en une touche et Mbappé au 6 mètres marque. Les Français s'imposent ce soir 2-1 face aux Croates. Ils restent avec le même nombre de points que le Portugal, mais ils perdent un petit peu de terrain au goal average. Le Portugal, justement, futur adversaire des Bleus à Lisbonne, ce sera le 14 du mois prochain, c'est-à-dire le 14 novembre.
Et quelques résultats à signaler des matchs d'hier. Le Portugal a battu la Suède 3-0 et le Portugal prend la tête du groupe 3 devant les Bleus. D'autres résultats, l'Italie et les Pays-Bas ont fait match nul, 1-0. Le Danemark a battu l'Angleterre 1-0. Victoire de la Belgique contre l'Islande 2-1. L'Écosse bat la République tchèque 1-0. Mardi, la défaite surprise de l'Espagne face à l'Ukraine, 1-0. Et le nul entre les Allemands et les Suisses, 3-0. Coupe du Monde 2022 et des matchs de qualification en Amérique du Sud. Précision de Thomas de Saint-Léger pour RFI.
L'Argentine qui évite le piège bolivien à La Paz, victoire 2-1 des coéquipiers de Lionel Messi, deuxième succès en deux matchs de l'Albi Céleste, idem pour le Brésil, 4-2 au Pérou, triplé de Neymar avec maintenant 64 buts pour la Seleção. Le joueur du PSG dépasse Ronaldo, il est à 13 unités du record de Pelé.
Et puis la nouvelle l'autre jour que Ronaldo a été testé positif au Covid, Cédric de Oliveira et Guillaume Nodin pour RFI.
Et pour cause, le numéro 7 portugais a été testé positif au Covid, asymptomatique, il a été placé en quarantaine. Son retour à la Juventus Turin risque d'être compliqué, le protocole sanitaire est strict en Italie. Il prévoit 10 jours d'isolement et un test négatif pour pouvoir recommencer à jouer. Sa participation à la première journée de la phase de poule de la Ligue des Champions la semaine prochaine est déjà remise en question.
Cristiano Ronaldo qui était sur la pelouse du Stade de France pour affronter les Bleus, champions du monde en titre.
Et il a même offert son maillot au tout jeune Eduardo Camavinga qui a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il ne laverait pas la relique d'une de ses idoles. Peut-être qu'il va reconsidérer la chose à présent.
Et puis des matchs annulés en Afrique pour cause de Covid-19 également. Olivier Pron, Radio France Internationale.
Parce qu'il faut être positif dans le sens optimiste du terme, il est important de relever que 85% des matchs programmés ces 7 derniers jours se sont déroulés sans problème. 6 néanmoins ont dû être annulés et il faut aussi reconnaître que plus les jours de rassemblement des sélections passaient, plus les cas positifs au Covid-19 cette fois se multipliaient. À la trappe donc, Libye Togo, les moins de 20 ans de la Tunisie face aux Comores, Guinée-Bissau Angola, Guinée-Gambie, Mali-Iran et ce mardi soir Sénégal-Mauritanie. Entre joueurs ou membres du staff contaminés, pays d'accueil préférant se protéger au dernier moment, non-respect du protocole sanitaire mis en place pour certaines sélections, les causes d'annulation sont multiples, mais tournent toutes autour du Covid-19 qui, selon toute vraisemblance, sera toujours présent dans un mois. D'où les nombreuses interrogations suscitées en fonction de l'évolution de la pandémie, car rebelote entre les 9 et 17 novembre prochains, exclusivement sur le continent cette fois, 48 matchs prévus pour le compte des 3e et 4e journées de qualification pour la CAN 2022. Entre les difficultés de voyager vers l'Afrique et les réticences de certains clubs à laisser partir leurs joueurs dans ce contexte, il y a fort à parier que certaines rencontres pourraient en pâtir.
Et puis en Afrique, il y a eu des matchs amicaux, comme nous l'expliquent Thomas de Saint-Léger et Arnaud Pontus pour RFI.
RDC giflé 3-0 la semaine dernière par le Burkina Faso, beaucoup plus solide hier face au Maroc, un partout. Score final, but congolais signé Johan Vissal, l'attaquant de Lorient ouvre son compteur avec les Léopards le soir de sa deuxième cape. Pas mal non plus les deux buts du match Tunisie-Nigeria, Inea Nacho pour les Super Eagles, Drager pour les Aigles de Carthage, un partout là aussi dans cette revanche de la petite finale de la CAN 2019.
Alors voilà pour les duels 100% africain, au programme aussi hier des oppositions intercontinentales.
Par exemple, Algérie-Mexique aux Pays-Bas, belle affiche, beau spectacle de partout. À l'arrivée, Bennacer et Mahrez ont marqué pour des Fenech réduits à 10 pendant 35 minutes suite à l'expulsion de Guédioura. Cela fait maintenant 20 matchs sans défaite pour la bande à Belmadi. La défaite en revanche, Patrice Baumel en connaît déjà le goût. Deuxième sortie pour le sélectionneur français de la Côte d'Ivoire. Première revers à Utrecht, également aux Pays-Bas. Les éléphants se sont inclinés 1-0 face au Japon malgré le grand retour de Gervinho en équipe nationale 3 ans après sa dernière sélection.
Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.
Ces araignées sur le plastron de mon smoking, ces chauves-souris au plafond du living room. Et toi, dis-moi quelque chose, tu es là comme un marbre rose, aussi glacé que le plastron de mon smoking, aussi pâle que le plafond du living room.
Et c'était le morceau Intoxicated Man de Serge Gainsbourg. On va maintenant retrouver Jean-Noël Ducasse et Nicolas Perpich pour le journal de l'économie en Australie.
Eh bien, comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Jean-Noël.
Selon une nouvelle étude d'Anglicare qui montre que c'est très difficile en ce moment pour les gens qui cherchent leur premier emploi.
Oui, tout à fait. Alors, chaque année, Anglicare fait ce qui s'appelle « the Jobs Availability Snapshot ». Et pour 2020, ils ont regardé les problèmes pour trouver des jobs. Et là, ils ont trouvé qu'avec la pandémie, c'est très difficile pour les gens qui sortent de l'école de trouver leur premier job. de l'emploi de niveau d'entrée où on n'a pas besoin d'avoir des compétences ou avoir de l'expérience. Donc des gens qui ont fini leurs études et qui veulent travailler tout de suite, mais ils disent que c'est très très difficile en ce moment parce que pour chaque job comme ça, de ce genre, il y a à peu près 8 personnes sur JobSeeker qui cherchent le même job. Et en Tasmanie, c'est le pire où c'est 20, il y a 21 personnes pour chaque job comme ça, de ce job de niveau d'entrée. Et si on regarde plus largement, juste pas les gens, juste les gens sur JobSeeker, mais les gens en général au chômage, et à peu près 100, plus de 100 personnes qui cherchent chaque job. C'est extrêmement compétitif et vraiment très très difficile. Et selon Anglicare, c'est la pire récession qu'on a eue depuis des très 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 longtemps. Ils disent que c'est peut-être encore pire parce que JobSeeker, bien sûr, ça cache JobKeeper. Ça cache le vrai taux de chômage ici en Australie. Et c'est très difficile pour les gens qui cherchent ce travail, qui peut-être sont obligés de se présenter pour plusieurs jobs chaque semaine et ils sont rejetés, tu vois, chaque fois pendant des semaines et des semaines, ça devient désespérant. Et selon le syndicat pour... les travailleurs australiens sans emploi, on se sent comme si on n'a pas de valeur, on est démoralisé, et parce que ils savent qu'il y a presque aucune chance pour eux de trouver un job. Et donc là, ils ont renouvelé leur appel pour créer un système ici en Australie avec un revenu de base ou un revenu universel, ce qui existe en d'autres pays mais qui n'existe pas ici. Et tout ça, ça joue aussi dans le débat de comment on va faire après cette pandémie, comment on va remplacer Newstart ou JobKeeper, est-ce qu'on va faire élever le niveau à une base meilleure où les gens puissent vivre plus facilement.
Les syndicats accusent certains employeurs d'utiliser l'excuse de la pandémie pour réduire les salaires et les conditions de travail des salariés.
Voilà, tout à fait. Ça, c'est Sally McManus qui est chef du ACTU. Donc, ça fait plusieurs semaines et des mois maintenant qu'elle est en négociation avec le gouvernement et des groupes qui représentent les employeurs, sur les relations industrielles. Il y a le gouvernement fédéral est en train de préparer toute une série de changements au système de relations industrielles et veut bien sûr en parler d'abord avec les groupes les plus importants comme les syndicats et les groupes pour les employeurs. Et elle a dit que maintenant, Madame McManus dit qu'après 4 mois de négociations et pas de résultats, elle dit qu'il y a certains groupes qui essayent d'éroder, de réduire les droits des travailleurs. Ils disent que vraiment, c'est des changements qu'ils essaient d'introduire qui n'ont rien à faire avec la crise, mais plutôt ils voient ça comme une opportunité pour changer le système et changer des choses qu'ils n'ont jamais pu faire depuis John Howard et Work Choices. Donc, Ms. McManus, elle s'inquiète que les travailleurs vont se retrouver dans une pire situation qu'avant la crise de Covid-19, mais c'est pas quelque chose que les groupes d'employeurs partagent. Eux, ils se défendent de toutes les façons.
Certains groupes qui représentent les employeurs disent que ce n'est pas le cas.
Oui, tout à fait. Donc, ils disent que c'est n'importe quoi. Ils disent que c'est évidemment ce que les syndicats vont dire, qu'en fait, eux, ce qu'ils souhaitent faire, c'est rendre le système plus efficace, plus simple, plus compréhensible et aussi plus flexible. parce que vraiment les business, ce qu'ils veulent faire, c'est employer plus de gens et aider l'Australie à sortir de cette crise comme laquelle on n'a jamais vu depuis des décennies. Ils disent qu'ils ont aucune intention de couper les salaires ou diminuer les conditions de travail, et que ce qu'ils proposent de changer, ce sont des choses vraiment tout à fait raisonnables, et c'est une approche pragmatique, et que ils sont contents de retourner à la table de négociation avec les syndicats et avec le gouvernement. Et c'est le ministre des Relations industrielles, Christian Porter, qui mène les négociations. Lui, il a dit qu'il a écouté les opinions des syndicats, des groupes qui représentent les employeurs. Et le plus important pour lui, c'est de créer des nouveaux jobs. On a vu le budget du gouvernement la semaine dernière, qui était entièrement centré sur ça, comment créer des jobs pour redémarrer l'économie australienne. Et donc, Monsieur Porter dit qu'il va présenter cette loi, c'est les propos pour le système industriel au Parlement vers la fin de l'année. Donc, ça va être intéressant de voir exactement ce qu'il va proposer et si les inquiétudes des syndicats ont une vraie base ou non.
Merci, Nicolas. À la semaine prochaine, à bientôt.
Merci beaucoup, à la semaine prochaine.
Et on vient d'écouter Aya Nakamura et son morceau « Comportement ». Je vais maintenant passer la parole à Nathanaël Bloch et Christophe Mallet qui vont, une fois n'est pas coutume, nous parler du Brexit dans leur dernier épisode de Europa Voice, parce qu'aujourd'hui c'est une date importante, c'est la date butoir à partir de laquelle l'Union européenne et la Grande-Bretagne sont censés trouver un accord.
On arrive à une des dates butoirs, hein, le 15 octobre, c'était une des dates butoirs dans les négociations entre le Royaume-Uni et l'Europe. Je serais tenté de dire, on en est où, Nathanaël? Parce que on a lu beaucoup, ça a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre, pour pas forcément grand-chose.
Beaucoup de bruit, alors pour pas grand-chose, hein, c'est le titre d'une célèbre pièce de Shakespeare. La date butoir, Christophe, c'est ce jeudi 15 octobre, où il doit y avoir un Conseil européen qui est peut-être, mais alors on l'a dit tellement et tellement de fois que je mets des gants, mais qui est peut-être le Conseil européen de la dernière chance pour trouver un compromis sur la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni. On en est où? C'est que pour l'instant, il me semble que les 2 mois et demi de la période de transition qui reste ne sont pas suffisants pour que l'Union européenne et le Royaume-Uni trouvent un accord de sortie.
Donc on en est où de tout ça? Parce que cet accord de sortie, on a quand même l'impression qu'on se dirige tout droit vers ce que Boris Johnson avait dit ouvertement dans les médias il y a un petit moment, le fameux World Trade Organization, le WTO, là où le Royaume-Uni aura donc cette sorte de hard Brexit et décidera donc de partir complètement de l'Europe sans avoir trouvé ou finalisé en tout cas un accord. On sent que ça se dirige vers ça quand même.
Alors, C'est très compliqué, Christophe, et c'est très contradictoire, hein, ce Brexit. Et on l'a vu, on l'a revu dans cette Europa Voice, parce que le Royaume-Uni a encore assuré début octobre, donc il y a quelques jours, hein, il y a quelques jours de ce Conseil européen, qu'il voulait parvenir à un accord sur la relation commerciale post-Brexit, mais en se disant toutefois prêt à un échec des négociations s'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Vous avez mentionné l'Organisation mondiale du commerce, le WTO en anglais. C'est peut-être le worst case scénario, parce que si on ne trouve pas d'accord, le Royaume-Uni, qui a quitté, déjà, hein, il faut le rappeler, a quitté l'Union européenne le 31 janvier, n'appliquera plus à ce moment-là les règles qui régissent encore l'Union européenne, mais appliquera les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Et en fait, c'est le worst case scénario, c'est le scénario du pire, Christophe, parce que c'est, si vous voulez, pour juste simplifier, ça voudra dire qu'entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, on aura de nouveau les droits de douane les plus importants, les taxations sur les produits et les marchandises les plus importantes, comme si en fait il n'y avait aucune relation commerciale, aucun accord entre les deux parties. Donc ça fait véritablement peur à la fois à l'Union européenne et à la fois au Royaume-Uni. En fait, si vous voulez, ce qui bloque encore, pourquoi il y a cette volonté d'arriver à un accord, mais il y a toujours pas cet accord. Ce qui bloque, c'est toujours, et encore une fois, c'est les mêmes sujets, hein, c'est ces questions autour de la pêche, c'est les questions autour de la concurrence équitable, hein, et les risques de en tout cas ce qu'on veut éviter de dumping fiscal, social, etc. Et puis aussi c'est la gouvernance en tant que telle de l'accord et finalement l'histoire commune qui va s'écrire entre les deux entités une fois que le Royaume-Uni aura terminé cette année de transition.
C'est ressenti comment ça au niveau des instances européennes ? Est-ce qu'il y a un agacement, Michel Barnier, il est, on espérait, hein, 15 octobre, ça fait quand même un petit moment qu'on discute, on espérait avoir peut-être une conclusion assez rapide. Vous savez, c'est ressenti comment ça au niveau des instances européennes ?
Alors je vais vous donner deux sons de cloche, Christophe. D'abord la position française, mais qui est importante dans ces négociations du Brexit. On a encore le secrétaire d'État assez proactif au français aux affaires européennes, Clément Beaune, qui a déclamé sur les réseaux sociaux, sur Twitter il y a quelques jours, qu'il vaut mieux pas d'accord qu'un mauvais accord. Donc vous voyez, on s'attend encore même du côté français au scénario du pire et toujours à ce que les relations entre les deux pays soient régies par l'Organisation mondiale du commerce, par le WTO, et donc encore une fois avec des droits de douane élevés, etc. C'est en France, on est assez pragmatique et puis on s'attend au pire. Du côté des négociateurs européens et donc du côté de Michel Barnier, évidemment, on fait preuve de peut-être d'un peu plus de diplomatie. C'est leur rôle en même temps et on le voit. Hein, Michel Barnier, lui, il aimerait bien. Donc c'est celui qui conduit la négociation pour l'Union européenne. Michel Barnier, il aimerait bien en fait que les dirigeants européens tempèrent, modèrent un peu certaines de leurs demandes et notamment en ce qui concerne les droits de pêche. Juste pour rappeler à nos auditeurs d'Europa Voice, la France voudrait continuer à accéder finalement à la même zone maritime commune qu'elle a avec le Royaume-Uni, comme s'il y avait encore un accord, alors que le Royaume-Uni, en fait, voudrait véritablement limiter cette zone et ne plus permettre aux pays, j'allais dire limitrophes, hein, je pense au Danemark, à la France et encore à d'autres pays, d'accéder à ces eaux et donc de réduire drastiquement les possibilités de pêche pour les pays français. Sachant, élément aussi qui est important de préciser, qu'après, le Royaume-Uni, lui, exporte 70% de sa pêche vers l'Union européenne et que finalement tout le monde aurait besoin d'un accord commercial et d'une bonne intelligence sur ce sujet-là. Donc vous voyez, hein, on a vraiment, encore une fois, j'allais dire, et le Royaume-Uni et la France qui font un peu leur coq et qui durcissent d'une certaine façon leur position, et on a les négociateurs qui essayent vraiment de faire preuve de diplomatie. Et c'est pareil, hein, là j'ai cité Michel Barnier, mais je peux aussi vous citer du côté britannique le négociateur David Frost, qui lui souhaite aussi que Londres tempère un peu ses velléités de sur-subventionner ses aides aux entreprises britanniques pour justement éviter un dumping fiscal, un dumping social, etc. Donc, on est vraiment entre le marteau et l'enclume, Christophe, en ce moment, dans ces négociations.
On peut vraiment attendre quelque chose en ce 15 octobre ou pas ? Réellement. Ça semble compliqué quand même.
Alors, écoutez, je vais vous dire, du côté, si je prends de nouveau, je crois qu'il faut vraiment analyser chaque acteur. Si je prends de nouveau du côté français, un élément qui est extrêmement pour moi significatif, important, c'est que le Premier ministre Castex, alors qu'on est quand même en pleine gestion de la pandémie du Covid, avec des annonces qui vont être extrêmement importantes et peut-être même qui vont avoir un impact très important pour la population française, le Premier ministre Castex a présidé une réunion interministérielle cette semaine, donc semaine d'annonce par rapport au Covid. Il a présidé une réunion interministérielle pour accélérer les préparatifs de la France en vue de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, et il a demandé à ce que tous les ministères, et là je cite un communiqué de Matignon, tous les ministères se mettent en situation de répondre rapidement à toutes les questions posées à la fois par les entreprises, les territoires et les particuliers, parce que la France doit se préparer à tous les scénarios en étroite concertation avec l'Union européenne. Donc vous voyez, c'est-à-dire que du côté français, on ne sait pas ce qu'on attend, mais on attend de ce Conseil européen qu'une décision soit prise, en tout cas qu'un scénario se dessine, et on s'attend au pire. Je veux dire, c'est pas anodin, hein, Christophe, hein, que le Premier ministre préside une réunion interministérielle sur cette thématique-là. Donc ça, c'est, vous voyez, du côté français, j'allais dire, on est assez réaliste, on est assez pragmatique, on se prépare au pire, on a une position qui est assez alignée, hein, entre le secrétaire d'État aux affaires européennes, entre le Premier ministre, entre les dernières déclarations d'Emmanuel Macron. Du côté anglais, si vous voulez, c'est aussi un peu la réponse du berger à la bergère, c'est-à-dire que comme on a cette position des principaux acteurs européens qui est assez ferme, bah, du côté anglais, on est aussi assez ferme, et la réponse, hein, véritablement, Christophe, de fermeté du côté anglais, bah, c'est, on l'a vu, hein, c'est la loi, l'extrêmement controversée loi sur le marché intérieur adoptée par la Grande-Bretagne. Alors, pour faire simple, mi-septembre, Boris Johnson a fait voter une loi qui revenait en fait en partie sur certains engagements qui avaient été pris dans le cadre du traité avec l'Union européenne, et notamment, j'aime bien en parler, c'est notamment sur le filet de sécurité et sur le protocole nord-irlandais, sur les relations qui vont régir une fois le Royaume-Uni sorti de l'Union européenne, les rapports à la fois entre le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord, et l'Europe et l'Irlande du Nord. Donc vous voyez, vous avez d'un côté on se prépare au pire, de l'autre côté Boris Johnson durcit aussi ses positions, et puis il obtient surtout le vote au Parlement britannique, donc on ne sait pas ce qu'on va obtenir de ce Conseil européen, mais il est évident qu'on va se diriger soit vers un consensus, où chacun a finalement beaucoup avancé ses pions les quelques jours précédents et va un petit peu avoir quelques victoires, hein, grignoter légèrement, ou soit on va aller au clash et on va se diriger effectivement vers un no deal, vers le scénario du pire. Alors, il faut juste aussi le préciser, Christophe, quand on dit le scénario du pire, c'est pas un scénario où rien n'est prévu, hein. Je reprends l'exemple du WTO, de l'Organisation Mondiale du Commerce. C'est juste un scénario où on a un cadre, on a une structure qui existe, mais qui n'est évidemment pas la structure optimale, parce que c'est retour à la case départ. Et d'ailleurs, c'est intéressant pour nous qui sommes en Australie, c'est le Premier ministre britannique Boris Johnson a dit qu'il était prêt à finir la période de transition sur des termes à l'australienne, c'est-à-dire un no deal, si un accord ne peut pas être trouvé. Donc, vous voyez, on dit le scénario du pire, c'est pas qu'il n'existe rien, c'est qu'il existe des choses, mais qui ne sont pas forcément à l'avantage de deux partenaires qui ont eu l'habitude ces dernières années, bah, de faire du commerce, de faire des relations et d'être ensemble sous la même bannière européenne.
Ouais, tout à fait, mais on le sait aussi que l'Australie veut un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Ça, c'est une autre discussion. Affaire à suivre, en fait, en tout cas, dans tout ça, parce que tout on en saura un petit peu plus vers la fin de la semaine.
Voilà, mais on en saura plus à la fin de la semaine, mais gardez un œil sur ce Conseil européen. Moi, je le dis, un Conseil européen certainement de la dernière chance, quel que soit le scénario, mais Conseil européen de la dernière chance dans la relation Union européenne, Royaume-Uni post-Brexit.
Absolument. Merci, Nathanaël.
Merci, Christophe. Last night again, you saved my life. Last night again, you saved my life.
Et c'était la reprise très très rock du célèbre morceau Last Night de DJ Save My Life, interprété ici par le groupe français Kokomo. Allez, on va maintenant se tourner vers Adélaïde et faire le point sur les activités à venir à l'Alliance française dans cette ville.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Eh bien, le plaisir d'avoir Raphaël Delaunay qui dirige l'Alliance française d'Adélaïde. Bonjour à vous, Raphaël.
Bonjour Jean-Noël, merci beaucoup.
Et on parle du projet d'art mural qui va retracer les relations franco-sud-australiennes des dernières 110 années, chez vous ?
Oui, tout à fait. On a l'immense plaisir de fêter les 110 ans de l'Alliance française d'Adélaïde cette année. Ça n'est pas l'alliance la plus ancienne. Melbourne fête ses 130 ans cette année. Mais on est très fiers de pouvoir fêter cet anniversaire, et notamment par le biais d'une peinture murale réalisée par un artiste australien, Jack Fran, pour souligner les relations entre la France et l'Australie depuis 110 ans.
Et en avant-goût, je dirige les gens sur cette vidéo à voir sur le site de l'Alliance française d'Adélaïde.
Oui, on a créé une petite vidéo pour expliquer un petit peu le principe du projet, les inspirations aussi dont l'artiste se servira pour cette création. C'est un projet aussi un peu particulier pour lequel on a souhaité proposer à la communauté de prendre part par le biais d'une campagne de crowdfunding, dont le principe est que pour chaque contribution au projet, des sortes de cadeaux sont offerts en fonction des contributions qui peuvent aller d'une carte postale commémorative de l'événement à des places pour l'Alliance française French Film Festival l'année prochaine, une invitation à l'inauguration, des cartes de membres de l'Alliance, ce genre de choses.
Et Raphaël, il se passe beaucoup de choses à Adélaïde concernant l'Alliance française, concernant les rendez-vous classiques, les activités régulières.
Oui, alors on est cette semaine en ouverture de notre quatrième et dernier trimestre de l'année 2020, année vraiment particulière, pour ce trimestre-là, on va reprendre la plupart de nos rendez-vous réguliers, que ce soit le déjeuner-conversation, le club de lecture, les histoires pour les enfants, les ciné-clubs, on va essayer aussi d'en avoir sous les étoiles, à l'Alliance française, en fonction de la météo bien sûr. Toutes les précisions seront sur le site internet. On met en place aussi des soirées-jeux en partenariat avec l'association Adélaïde Accueil, en charge de l'accueil des Français à Adélaïde, avec l'idée de mixer les populations, donc les élèves de l'Alliance française et des publics francophones, pour partager l'amour des jeux.
On parle d'un save the date, qui est un concours Movember qui arrive prochainement.
Oui, tout à fait. Par le biais de cet événement Movember, qui est un événement à Adélaïde, plusieurs participants sont amenés à contribuer pour récolter des fonds et soutenir des associations sur différents sujets. En l'occurrence, à l'Alliance française d'Adélaïde, on propose à tous nos membres de participer à une sorte de petit jeu concours où chacun est invité à se prendre en photo avec une moustache. Et tous les publics sont invités, hommes comme femmes, en étant un peu créatifs. Et pour chaque photo reçue, l'Alliance française contribuera à hauteur de $5 pour une association dans le cadre de cette action Movember.
Et il y a également aussi ce partenariat, comme chaque année, de l'Alliance française avec le théâtre français d'Adélaïde.
Oui, avec la compagnie Panache, qui cette année va mettre en scène Le Dieu du carnage, qui est une pièce de Yasmina Reza. Les représentations auront lieu les 5, 6 et 7 novembre au Star Theatre à Adélaïde.
Et on ne va pas oublier de mentionner Manon, de Jules Massenet, au cinéma également.
Oui, un jeu concours est en ligne sur nos réseaux sociaux avec tous les détails effectivement sur des tickets à gagner.
Et je crois qu'on a fait le tour d'horizon, j'ai rien raté pour l'instant.
Il y aura un tout dernier événement sur lequel on va proposer pareil à la communauté. C'est un projet d'exposition qui s'appelle France Emotion. Ah oui. Ce sont 35 panneaux d'assez grande taille qui seront installés dans les locaux de l'Alliance française, et en téléchargeant une petite application et vous pouvez passer votre appareil, que ce soit téléphone ou tablette, devant les photos et des petits personnages s'animent. Ces photos concernent des lieux du patrimoine français. Ils sont une façon de voyager un petit peu en ces temps de voyage et de déplacement limités. Et l'exposition sera en place à partir de début novembre.
Merci à vous, Raphaël, et on dirige les gens aussi sur le site de l'Alliance, af.org.au.
Oui, merci beaucoup Jean-Noël, une pensée toute particulière pour vous et toute votre équipe à Melbourne.
Merci à vous et à bientôt.
À très bientôt.
Vous écoutez Le Français sur Radio SPS.
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte avec le morceau « Damn, dis-moi » de Christine and the Queens. Nous, on se retrouve samedi à 13h sur Radio SBS One. Et puis d'ici là, je vous rappelle que toutes nos interviews, tous nos reportages, vous pouvez les écouter gratuitement quand vous voulez en podcast. Pour ça, il faut soit aller sur notre site SBS French, sur notre application SBS Radio, et à vrai dire, sur toutes les autres applications de streaming audio, nous sommes également disponibles. Il suffit de vous abonner à notre chaîne. Passez tous une excellente journée et à très bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.